l'ours et la carotte. Une émission d'environnement proposée par Nicolas Saint-Martin et Claire Queyrouga. Les Martins vivent à Lévance, en Sud-Ardèche. Cette famille d'agriculteurs exploite des fruits, des vignes et un camping dans ce joli coin calé entre les Cévennes et la vallée du Rhône. Je les ai rencontrés alors qu'ils étaient en pleine cueillette. Qu'est-ce que vous faites là ?
Bien, on trie des cerises qu'on a ramassées ce matin. Et tout à l'heure, il y a quelqu'un qui doit venir nous les chercher, quoi.
Alors vous êtes en multi-activité, vous avez encore un pied dans l'agriculture, on peut dire, mais pas que ça.
Mais disons qu'au départ, on était agriculteur, et puis après, vu que les prix s'amenuisaient chaque année, on a choisi de faire du tourisme. Alors après, on a fait un petit peu des gîtes, et puis on a créé un camping, voilà, en 89. Un petit camping familial. On a pas mal de clients habitués qui reviennent chaque année. Voilà. Alors, j'ai fait d'agriculteur et j'étais agriculteur dès que j'ai commencé à... Dès mon plus jeune âge, j'ai choisi ce métier, quoi. J'ai repris la suite de mes parents.
Et vous faisiez quoi alors ?
Alors au départ, on avait pas mal de... Ici, on avait de la vigne et des arbres fruitiers. Essentiellement des arbres fruitiers. Et puis après, quand il y a eu le marché commun, les prix ont chuté, les prix des fruits ont chuté. À ce moment-là, on a choisi, bon, d'abord après, on a planté pas mal de vignes parce que pour remplacer les arbres fruitiers.
Vous aviez quoi comme fruitier ?
Alors, on commençait de ramasser des cerises, et puis après, on avait surtout, essentiellement, des pêches. Et tout l'été, on ramassait des pêches.
Et alors là, comment ça fonctionnait ? C'était vous, la famille ?
Ah ben, on a toujours travaillé en famille, nous. On n'a jamais empêché personne. C'était toujours les parents, les enfants, les grands-parents, tout le monde participe au travail de l'exploitation. Quoi.
Voilà. Donc trois générations en général ?
Mais oui. Trois, enfin, en ce moment, il n'y en a plus que deux, mais enfin, on a eu jusqu'à trois générations. Ouais.
Bah, hier soir, je vous ai croisé, il y avait le petit-fils, non ?
Ouais. Ah oui, Nathanaël, oui, le fils d'Angélique, oui.
Il a quel âge ?
Bah, lui, il a 12 ans, 11 ans, 12 ans. Ouais, 12 ans.
Il donne toujours un coup de main.
Oh ben, il est content de venir après l'école, quoi.
Ça le change un peu de l'école et puis bon, il s'intéresse à ce qu'on fait, quoi. Ça. Voilà.
Pour vous, l'agriculture, c'est quand même quelque chose qui se fait en famille.
Ah oui. Puis de toute façon, on n'a pas tellement le choix parce que vu le prix de nos produits, on est obligé de. Et puis une famille, ça fait quand même de la force. C'est pas l'esprit n'est pas le même que quand on est du personnel, quoi. C'est tout à fait différent, quoi. Tout le monde tire profit de tout. Il n'y a pas de, je veux dire, on ne regarde pas les horaires, on ne regarde pas les, je veux dire, c'est tout à fait différent, quoi.
On n'a pas la rentabilité, quoi. Ce qui prime, c'est d'avancer, l'esprit de famille et de, voilà.
Alors vous êtes le fils.
Moi, je suis le fils, ouais.
Vous êtes deux fils à aider votre père.
On est deux fils qu'on aide un petit peu et on est quatre enfants. Et moi, je reprends l'exploitation. Pour le moment, je suis installé agriculteur depuis 10 ans. J'ai une partie d'exploitation, surtout des viticulture, moi. Viticulture, arboriculture. Et mon père, lui, il fait essentiellement le camping et la viticulture. On fait tout en famille.
Et vous faites quoi comme vin ?
IGP, Coteaux de l'Ardèche.
Alors IGP, ça veut dire
Indication géographique protégée.
Mais c'est ce qui remplace les vins des pays d'avant, quoi. Avant, il y avait des vins de pays, et maintenant, c'est IGP.
Coteaux de l'Ardèche, donc ça va sur quel secteur ?
Le Saint-Martin-Ardèche jusqu'au Vence.
Donc ici on est au Vence, c'est le début. Mmh. Le climat ici, il est encore méditerranéen ?
Oui, on a un climat méditerranéen parce que bon, on a l'olivier, on a le figuier, on a quand même des plantes méditerranéennes.
Alors votre vin, il est comment ?
Notre vin, il est très bon. Hein. Non mais c'est vrai. Hein. On a un vin de. Les gens reconnaissent, qualité-prix, on est bien placé.
Parce que le vin de pays, il n'a pas forcément très très bonne estime dans le cœur des gens.
Disons que si, le vin de pays, c'est quand même autre chose que le vin de table qu'on avait avant, quand même. Ça a quand même beaucoup évolué de ce côté-là. Et puis le vin de pays d'ici vaut certaines appellations. Hein. C'est quand même du vin qui est quand même coté aujourd'hui, enfin, qui est reconnu, quoi. On en vend un peu de partout. Et... en certaines variétés, on en manque même. Parce qu'on fait une diversité de vins ici dans le pays.
Vous faites quoi alors?
Alors on fait déjà bord des vins de cépage. Gamay, Merlot, Syrah, Grenache, Cabernet, enfin plusieurs sortes de vins. Et puis après on fait un peu plus des vins spécialisés qui s'appellent du vin de vendange tardive.
Avec, il est plus sucré, non?
Il fait avec du vionnier, ouais. Il est sucré, c'est des vendanges de l'octobre. Alors comme on le laisse mûrir longtemps, il est très riche en sucre. Il fait des degrés, il fait jusqu'à 17 degrés. C'est quand même des vins qui sont liquoreux, quoi. C'est très bon.
C'est presque des vins d'apéritif?
Oui, ça peut, on peut le prendre en apéritif, comme on peut le prendre manger avec le prendre quand on mange du foie gras ou des certaines...
Voilà. C'est un peu votre Mont Basillac.
Voilà, c'est ça. Mont Basillac de l'Ardèche. Voilà.
Il ne faut pas oublier de parler du chatus.
Et puis on a un autre vin aussi qui s'appelle le chatus, qui est une spécialité locale, quoi.
Alors qu'est-ce qu'il a de spécial, ce vin-là, le chatus?
C'est un cépage qui, c'est un vieux cépage qui a été remis en culture, quoi.
Alors un cépage, c'est un peu l'espèce, le type.
Une variété de raisin. Et aujourd'hui, il se fait de plus en plus des vins de cépage. On mélange de moins en moins les... Enfin, il se fait après les vins d'assemblage, mais au départ, c'est surtout des vins de cépage. Voilà. Et le chatus, c'est un vin qu'on fait vieillir en fût de chêne, qu'on vend 3 ou 4 ans après qu'il a été qu'on l'a vinifié, quoi.
Donc après, il a un goût un peu plus marqué.
Ah oui, c'est du vin qui est bien reconnu, quoi, qui est très bon. Hein. C'est un vin de garde, quoi. C'est un vin de garde.
Un vin de garde, ça veut dire qu'on le conserve quelques années?
Voilà, on peut le conserver pas mal de temps, ouais, c'est ça.
Comment vous faites pour vendre votre vin? Alors, vous faites de la vente directe? Vous exportez sur le marché national, non, international?
Nous, on est en cave coopérative.
Ça veut dire que vous êtes regroupé avec d'autres vignerons?
Voilà, on est regroupé avec d'autres vignerons, voilà, c'est ça. Et on est en cave coopérative, on livre nos raisins en cave coopérative. Et la coopérative, on a du personnel qualifié qui nous le vinifie et qui s'occupe de la commercialisation, et voilà.
Et alors, c'est quoi l'intérêt d'être en cave coopérative?
Mais disons qu'on n'a pas... Moi, je dis que travailler la vigne, être viticulteur, c'est un métier. Faire le vin, c'en est un autre. Et le commercialiser, c'en est un autre. Donc nous, on ne peut pas tout faire parce qu'on est déjà diversifié pas mal sur l'exploitation et on ne peut pas se permettre de tout faire. Alors donc, le fait d'être en coopérative, la coopérative s'occupe de... fait l'essentiel du travail, quoi. Nous, on fait que livrer les raisins, quoi. Voilà. On produit le raisin et on le livre à la cave, à la cave coopérative. Voilà. C'est du vin de IGP des Coteaux de l'Ardèche. Voilà.
Est-ce qu'on peut dire qu'on n'est pas trop loin de la vallée du Rhône ici?
Ah non, on n'est pas loin, non. Non, on n'est pas très loin. C'est...
Disons qu'on est situé entre le parc national des Cévennes et la vallée du Rhône, quoi. On est sur la limite du schiste et du calcaire.
Donc ça, c'est en fait en fonction de que ce soit schiste ou calcaire, ça va donner un goût différent au vin.
Au niveau du terroir, déjà, ça change au niveau surtout du vin, quoi.
Le goût est tout à fait différent suivant le terroir. Ça, c'est comme dans les fromages de chèvre, on a autre chose. Suivant où les chèvres ont brouté, le fromage n'a pas le même goût. Suivant les sols, hein, c'est sûr. Hein. Parce qu'il y a la végétation qui change, il y a plein de choses, quoi. la végétation change en fonction du terrain. Ce n'est pas une région humide. Hein. Parce que même à l'été, on a des sécheresses qui sont... Et même en ce moment, le sol est quand même assez sec. Hein. En surface, quoi. Cet hiver, on a eu de l'eau, mais je veux dire, on a des réserves en profondeur, mais en surface, on est obligé à l'arroser. Déjà, commencer à arroser les arbres fruitiers.
Hein. Ah, vous arrosez vos fruitiers, donc cerisiers et pêchers.
Oui, les arroser, oui. Parce que déjà, il y a pas mal de fruits cette année. Alors bon, en plus de ça, comme la terre est sèche, il faut quand même il faut leur donner à boire, quoi.
Oui, hein, de l'eau, du soleil, c'est la meilleure recette pour avoir des bons fruits.
Et oui, tout à fait.
Ici, le soleil, vous êtes bien servi quand même. Hein.
Ah oui, on a 300 jours de soleil par an. Enfin, 300 jours de beau par an. Quoi.
Ça fait rêver. Alors, votre femme, elle me disait ce matin, il fait moche dans toute la France, sauf par ici.
Et oui, ah, mais c'est vrai que on est parti un peu du golfe du Lion, là, et on est des privilégiés, quoi. C'est vrai que... Il y a quand même un bon climat.
Alors là, vous faites quoi avec toutes ces cerises depuis tout à l'heure?
Eh bien, on les trie, on les calibre un peu et on les trie. Quoi. On enlève tout ce qui n'est pas beau. Les échaudées, les fendues. Enfin, les fendues, il n'y en a pas beaucoup cette année, mais les échaudées, celles qui sont un peu plus blanches, qui ne sont pas mûres, les feuilles, enfin, tout ça. Voilà.
Et là, vous avez deux seaux, donc vous faites un tri. Il y en a qui ne sont pas très mûres. Non, elles ne sont toutes pas bonnes.
Non, c'est que du déchet, ça. Hein.
Vous donnez pas à manger à vos cochons?
Mais j'en ai pas de cochons. On les donne aux poules. Aux poules. Excusez-moi, mais je vais en vider un quelques plateaux.
On jette rien, on transforme tout. Il n'y a pas de gaspillage. Soit les poules, soit le compost. Ça repart dans la nature. Quoi.
Et après, donc, le compost, vous le remettez au pied de vos arbres?
Alors, le compost est réutilisé, oui, effectivement, au pied des arbres. Au pied des fleurs, au pied de... On le prend quand on en a besoin, quoi.
Comment vous faites pour les fruitiers? Vous leur apportez régulièrement quelque chose à leurs pieds ou alors ils se débrouillent tout seuls?
Alors le fumier, on apporte un engrais qui s'appelle Grenas, un engrais organique à base de fumier de cheval. Hein, parce qu'on essaie de ne pas utiliser des produits trop chimiques dans la cerise ici, dans nos fruits, tout simplement. De l'engrais, on tond les arbres au pied régulièrement et on arrose. Et on le taille bien entendu au moment de, avant la floraison, quoi.
Vous faites la tonte au pied des arbres plutôt que de désherber pour remettre un peu une sorte de mulch, une sorte d'herbe au pied ou...
Oui, tout à fait. Ouais. On préfère, puis même par rapport à l'érosion, par rapport à plein de choses, ça garde une certaine fraîcheur, une certaine humidité. Quoi.
Et alors, là, vous êtes en plein dans les cerises. Ça va durer combien de temps?
Alors, la saison de cerises est très courte. Elle dure un mois. Alors, on ne ramasse pas pendant un mois. On ramasse pendant les burlas, par exemple. On va être ramassé pendant... maximum 8 ou 10 jours. Après, on va s'arrêter quelques jours, on va travailler dans les vignes. On va remonter les fils de fer, le palissage dans les vignes. Et puis après, on va s'occuper un petit peu du camping. Et puis on va retourner les cerises, faire les dernières variétés. C'est-à-dire, dernières variétés, on va commencer par l'avant, continuer par l'avant. L'avant, la sumite, la stark, la noire de méchède, etc. Quoi. Jusqu'à la Napoléon, un petit peu, qu'on en a très peu. Et après, la saison des cerises se termine et après, on continue le travail dans les vignes.
Alors finalement, les différentes variétés de cerises, ça vous permet d'avoir une saison plus importante de récolte, plus longue?
Oui, ça permet d'échelonner, quoi. Parce qu'après, vu qu'on n'est pas très nombreux à ramasser, qu'on travaille en famille, il faut pouvoir tous les jours, une personne fait environ 8-10 kilos à l'heure. Après, il faut les trier. Et quand on est 3 ou 4 à travailler, on ne peut pas en faire des grosses quantités, quoi. Donc ça nous permet d'échelonner, d'en avoir plus dans la saison. Quoi. Mais ça se complique de plus en plus pour commercialiser. Quoi, parce que maintenant, avec les fruits qui arrivent d'Espagne et de partout, et de Turquie, à des prix défiant toute compétitivité, quoi, on a du mal à suivre. Quoi.
Voilà. Vous les vendez comment alors, vos cerises?
À l'époque, on les vendait en coopérative. On a arrêté les coopératives et on cherche les marchés courts.
Pourquoi vous avez arrêté?
Parce que les coopératives nous demandaient de plus en plus de calibres, qui étaient très exigeants.
De plus en plus grosses?
De plus en plus grosses, bien sûr. Et puis ils nous faisaient traiter avec des produits, des fois, qui ne nous intéressaient pas. Et on a voulu arrêter ça.
Une coopérative agricole, elle peut vous obliger à utiliser certains pesticides ou...
Oui, on signe un cahier des charges avec les coopératives. Qui nous oblige à faire certaines choses que nous, on ne voulait pas faire. Quoi. C'est pour ça qu'on a arrêté. Et puis après, les prix, même, ils annonçaient des prix et puis ils ne pouvaient pas les tenir parce qu'ils payaient d'abord le personnel, d'abord les employés. Et puis ce qui nous restait, après, ils le partageaient entre tous les coopérateurs, quoi.
Donc un peu les producteurs, toujours le dernier maillon mal desservi.
Toujours le dernier maillon, toujours mal desservi, tout à fait.
Alors maintenant, vous avez pris votre commerce de cerises à bras-le-corps. Vous faites comment pour vendre vos cerises?
Maintenant, le matin, ce que je fais, j'appelle un petit peu, je regarde déjà les marchés sur Internet, le prix, le cours. Et puis, ce matin, j'ai regardé un petit peu. Et après, j'appelle différents leveurs, différents commerçants, savoir à quel prix ils vont me les prendre. Et puis, on négocie et on essaie de trouver une entente. C'est pas toujours facile. Des fois, on ramasse sans savoir si on va les vendre, sans savoir le prix qu'on va nous les payer.
Donc c'est là où ça va au compost?
Non, ça part on les met pas au compost, mais plutôt que de les mettre au compost, on les met sur les... On les laisse sur les arbres, quoi. On les laisse aux oiseaux. On paye notre taxe à la nature.
Et voilà votre mère qui arrive avec encore des cerises.
Encore deux sauts de cerises de plus pour trier. Parce qu'à 11h, on vient nous les chercher, là, aujourd'hui. On va voir ce qu'ils vont nous dire.
Alors c'est qui, là, qui vient tout à l'heure?
Alors, c'est quelqu'un qui vient de... C'est les cerises qui vont partir sur Valence, ça. Valence, et après, elles vont monter sur chemin sur Rungis, au marché de Paris. Demain matin, elles y seront. Elles ont été ramassées ce matin, là, un petit peu hier soir. Et elles seront demain matin sur les étals, dans la région parisienne. Donc nous, on va nous les payer, je ne sais pas quel prix, peut-être 2 euros le kilo, 2,50. Et sur les étals, elles vont arriver à 5 ou 6 euros, 7 euros le kilo, quoi.
Ou plus même peut-être.
Peut-être même plus.
Dans les quartiers chics.
Peut-être bien.
Mais alors ça, c'est vraiment dégoûtant hein, quand on y pense. Et tous les agriculteurs, ils vivent ça. Et les pêcheurs aussi. Enfin, tous les gens qui vivent
les
un
éleveurs,
peu...
Les éleveurs.
Les éleveurs, voilà. C'est finalement les différents intermédiaires qui vont parfois prendre des marges énormes. Et du coup, les circuits courts, c'est une alternative. Vous avez développé vraiment la vente directe. Vous n'allez pas au marché, vous n'avez pas le temps.
Alors disons que pour les cerises, c'est difficile de développer un circuit court parce que ici tous les habitants du pays, en fait tous les touristes arrivent à en acheter pas cher, à en trouver sur les arbres, à en cueillir un petit peu. Mais tout ce qui est vente de fruits, de pêche, tout ça, depuis maintenant 15 ans, même 30 ans d'après ce que dit mon père, on vend directement sur les marchés. Alors on faisait un peu les marchés locaux et maintenant on fait... les marchés nocturnes, etc. Et on avait développé un point de vente sur l'entrée de notre camping, en bordure de route. Et donc voilà, petit à petit, on a essayé de développer ça. On a arraché beaucoup de pêchés. Ce que disait mon père tout à l'heure par rapport au marché commun, par rapport à l'Europe, qui ont envahi les marchés à des prix horribles, très bas. Et du coup, on s'est mis à vendre au détail, on a développé ça. Et on s'en est sorti. C'est sorti quoi. C'est pas fortune, mais on arrive à gagner notre vie et à vivre au pays.
Diversification, c'est comme ça un peu qu'est arrivé le camping familial au milieu des vignes, hein, parce que là, il y a des vignes à côté des bungalows, on peut mettre sa tente quasiment dans vos vignes. Donc le camping, vous l'avez un peu mis en place certainement pour pouvoir continuer l'agriculture, non?
Pour continuer, oui, et puis surtout pour remplacer ce qui est la mévente, quoi.
Voilà, pour pouvoir continuer, parce qu'économiquement, c'était devenu difficile, voilà, l'exploitation.
Tout à fait. Oui, c'était pour cette raison-là, oui.
Alors, vous avez commencé par un gîte?
Oui, c'est un des gîtes qu'on avait, qu'on loue, quoi. Une location saisonnière.
D'accord. Et alors, les touristes qui viennent en camping, vous ne leur avez jamais proposé de venir vous aider à récolter les fruits ou...
les anciens, les premiers clients qu'on avait, c'était une mentalité comme ça. Ils venaient d'eux-mêmes, vraiment c'est des fruits parce que bon, ils avaient un esprit encore de la. Ils avaient un peu. Ils étaient issus plus ou moins de la campagne, ils savaient un peu ce que c'était, quoi. Ils prenaient plaisir à venir nous aider, mais une nouvelle génération, ça ne les intéresse même pas. Ils sont pas. Bon, ça les. Si, ils aiment bien avoir des fruits de l'exploitation, mais ils ne cherchent pas à savoir comment ça a été produit, ni comment ça a été ramassé.
Ils n'ont pas le même rapport.
C'est pas le même rapport.
Ici, vous avez beaucoup d'urbains qui viennent, vous pensez ?
Ah oui, oui.
Des gens qui finalement connaissent pas du tout ça, la campagne, et ça les intéresse pas.
Il y a beaucoup de gens donc, qui ne connaissent pas du tout. Hein, parce qu'ils ont perdu le sens de la terre, enfin, je ne sais pas comment dire. Hein, c'est plus ce que c'était il y a quelques années.
Ils ont l'image des médias de la campagne, ils n'ont pas la vraie image. Mmh. Oui. Ils ont l'image des médias, je pense. Ils n'ont pas la vraie conception. Enfin. Et puis ils veulent amener ce qu'ils ont de la ville. Hein. Ils ne s'adaptent pas tellement à la campagne, pas si vite que ça, même pour les vacances, ils veulent tout.
Par exemple, c'est pour ça que vous avez des bungalows tout équipés.
Mais disons que maintenant, les gens, des nouvelles générations, c'est vrai que maintenant, ils veulent leur confort comme à la maison, quoi.
Le micro-ondes, la télévision, la clim.
En camping, les gens, ils vous demandent ça.
Tout ça. Ils sont très exigeants, très très exigeants.
Maintenant, c'est sûr qu'avec maintenant, on commence à sentir la crise, elle est arrivée. Je pense que les nouvelles générations seront moins exigeantes. Ils reprendront la toile de tente parce que c'est vrai que ça revient beaucoup moins cher quand même. Moi, j'ai l'âme paysanne, je suis un paysan à l'âme, alors que mes enfants, même malgré que je leur ai transmis, ils n'ont pas la même. C'est plus ça, quoi. C'est plus ça. Ils n'ont plus l'amour de la terre comme moi je l'ai eu, quoi. C'est différent, quoi. Ils voient les choses autrement. Maintenant, la nouvelle génération, ils ont plus de sens de l'argent, de la. Nous, c'était plus. Bon, c'est vrai qu'il fallait gagner sa vie, mais c'était une autre mentalité, quoi.
Et cet amour de la terre, alors pour vous. Il y a plein d'aspects liés à la terre. C'est que votre père et peut-être les générations avant, elles avaient déjà ces terres sur lesquelles sont plantés ces arbres qui donnent ces fruits, qui vous font toujours travailler. C'est un attachement assez profond, non ?
Oui, il y a ça. Et puis, on est quand même heureux de faire pousser, de produire. Quand on voit un arbre bien chargé de fruits, bien, qui sont jolis et tout, on est content quand même. C'est une satisfaction. C'est quand même, on a du plaisir à faire pousser son, à faire pousser, à produire. Je vois même au camping, je vois, j'ai fait pousser plein des arbres. Maintenant, je suis heureux de voir ce que j'ai fait, quoi. C'est un peu le chef-d'œuvre de ma vie, quoi. Parce qu'au départ, dans le camping où vous êtes aujourd'hui, c'était un désert, quoi. Et aujourd'hui, vous voyez comme il est arboré, il est vert.
Alors qu'on est sur le rocher.
Et on a refait les murets, on a respecté les murets d'avant. Alors qu'on est un terrain très, très pauvre, en plus. Alors on a quand même du mérite, alors ça fait plaisir, quoi. Et puis, bon, de savoir faire son vin, tuer son cochon, faire plein de... À côté de ça, dans la culture paysanne, il y a plein d'autres choses, quoi. D'aspect. Moi, dans mon enfance, quand on faisait une plantation, qu'on défaisait un terrain, tous les voisins venaient donner un coup de main, quoi. Et on se rendait le temps. Tandis que maintenant, tout ça, c'est terminé, quoi. Ça n'existe plus, quoi. C'est autre chose. Hein.
C'est comme vous parliez de tuer le cochon. C'était un grand moment dans chaque famille. On invitait tous les voisins. C'était beaucoup de travail pendant 2-3 jours, mais c'était un peu le grand banquet.
Ah oui, c'est sûr. Oui. C'était du travail, mais c'était du plaisir aussi. Et puis, en plus de ça, ça faisait des provisions pour toute l'année, quoi. Ça répondait aussi plus aux besoins d'une autre époque. Comme maintenant, c'est vrai que celui-là qui a de l'argent aujourd'hui, il achète tout ce qu'il veut, quoi. Tandis qu'avant... On en avait plus besoin financièrement, et en plus de ça, ça avait quand même un autre goût que ce qu'on achète aujourd'hui, parce que chaque maison avait sa façon de travailler, de cuisiner, dans toutes les maisons c'était différent, quoi.
Il y avait la culture et les traditions qui se transmettaient aussi comme ça.
Et oui, tout à fait. Il y a plein de choses qu'on savait faire avant, qu'on ne sait plus faire maintenant, ne serait-ce qu'attacher des vignes. Attacher les vignes avec de l'osier, c'est un exemple parmi tant d'autres. Tu vois, mes enfants ne savent pas le faire, mais ils attachent les vignes avec des ficelles. Et moi, j'attache avec de l'osier, mais je trouve que ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus écologique, c'est beaucoup plus...
Pour la vigne, ça la blesse moins.
Ça la blesse moins, c'est plus pratique.
Et puis, vous avez de l'osier peut-être, c'est gratuit du coup.
Mais de l'osier, on en avait planté à l'époque, on en avait pas mal. Parce que bon, l'osier, on en avait planté parce que bon pour la vigne, et puis en plus de ça, ça nous servait. Si on voulait faire des paniers ou n'importe.
Ah, vous faisiez ça aussi?
Non, moi je ne l'ai jamais fait, mais si on fournissait les osiers à des gens qui passaient, des gitans ou des gens qui passaient dans le coin, il y en avait qui savaient le faire, et ils nous faisaient des paniers, alors c'est quand même...
Elle va perdurer, là, votre exploitation, hein. Vous avez la relève qui est assurée.
Disons qu'on espère. Disons que la relève est assurée pour la génération qui arrive pour l'instant, qui arrive derrière moi, mais la génération d'après, on ne sait pas encore, parce que bon, c'est encore, ils sont trop petits, quoi. Alors on ne peut pas savoir. On verra ça dans quelques années, suivant.
Non, surtout continuer dans la viticulture, mais tout ce qui est arboriculture, petit à petit, ça va s'estomper, quoi. Parce que quand on voit le prix des fruits aujourd'hui qui se vendent en gros et même au détail, ça devient impossible à produire. Ça demande beaucoup de travail pour une valorisation qui n'est pas terrible, quoi.
Et vous ne pensez pas qu'avec la fin du pétrole qui arrive bientôt, on va recommencer à manger des fruits qui viennent de pas trop loin?
Ça serait... La fin du pétrole, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler, mais je ne sais pas si...
Si on nous parle du gaz de schiste, ouais. Ici dans le secteur. Vous savez, ça aussi, c'est un sacré problème. C'est l'histoire économique pour le pays, mais c'est la destruction de tout, quoi, dans la nature.
De l'eau, de la terre.
Mais ouais, c'est triste, hein, de voir ça. Enfin,
L'avenir reste quand même positif, c'est sûr. Il y a encore des belles choses à faire, des belles choses à produire. C'est vrai qu'ici, dans la région, nous, Sud-Ardèche, on va surtout développer la vigne. Tout ce qui est arboriculture, c'est en train de s'estomper un petit peu. Il y a encore la châtaigne qui résiste un petit peu. Châtaigne, vigne, bon, il y en a quelques-uns qui plantent des oliviers, parce que c'est vrai que c'est pas très compliqué à mener, malgré qu'il y a des parasites, des insectes qui arrivent un petit peu, mais enfin, ça va. Et puis le tourisme, beaucoup de tourisme. Voilà, parce qu'on a un paysage quand même qui est sympa, on a des villages qui sont très variés, on a une belle région, quoi. On est fiers de notre région. Voilà.
C'était l'ours et la carotte. Écoutable sur internet.